La voix de l'Amérique tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter le second bulletin d'information de la soirée. On commence par les quarts de finale de la Coupe du Monde de football avec notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Nicolas, bonjour. Alors l'Argentine s'est qualifiée ce samedi à Brasilia pour la finale de la Coupe du Monde en s'imposant 1-0 face à la Belgique.
Et oui, l'Argentine qui a validé ce samedi son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde en battant à Brasilia 1-0 la Belgique sur un but de Gonzalo Higuain qui était muet depuis 6 matchs. L'Argentine s'est donc qualifiée et c'est évidemment dans la logique puisque les Argentins étaient favoris sur ce match. Il va falloir attendre maintenant pour savoir quel sera le prochain adversaire de l'Albicéleste. Il s'agira des Pays-Bas ou du Costa Rica qui s'affrontent tout à l'heure dans le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde. Et Nicolas Pino au Brésil pour la Voix de l'Amérique.
Et rappelons que l'Allemagne et le Brésil ont éliminé leurs adversaires en quart de finale vendredi. Et le Brésil continuera la Coupe du Monde sans sa plus grande star, Neymar, qui a marqué 4 buts dans le tournoi et s'est brisé une vertèbre lorsque Juan Zuniga de la Colombie lui a donné un coup de genou dans les dernières minutes du match hier. En Somalie, au moins 5 personnes, dont 2 soldats, ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée près du Parlement à Mogadiscio. Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans la capitale somalienne et a dit qu'il y en aura encore d'autres. Le Parlement était en session au moment de l'explosion. Les autorités disent que le véhicule a explosé quand il a été arrêté par des soldats à un barrage devant l'entrée du Parlement. Un tribunal égyptien a condamné le chef des frères musulmans, Mohamed Badieh, et 36 autres islamistes à la prison à vie. Mohamed Badieh, reconnu coupable de participation à des manifestations meurtrières, avait été condamné à la peine de mort pour 2 autres cas dans la répression de l'opposition islamiste après la destitution de Mohamed Morsi par l'armée l'an dernier. Le tribunal a également confirmé les condamnations à mort pour 10 autres partisans de la confrérie. Les frères musulmans ont été désignés comme groupe terroriste et de nombreux membres ont été emprisonnés, y compris l'ancien président égyptien. Les troupes ukrainiennes ont repris le bastion rebelle de Sloviansk dans l'est du pays. Après l'offensive, le président Petro Porochenko a ordonné aux forces armées de hisser le drapeau ukrainien sur la ville. Les autorités et des habitants disent que les rebelles pro-russes ont évacué la ville après avoir essuyé des tirs de mortier des forces gouvernementales. Les séparatistes contrôlaient Sloviansk depuis début avril. Les rebelles semblaient se replier sur la ville voisine de Kramatorsk, mais la presse sur place a indiqué que beaucoup d'entre eux, plus tard, quittaient également cette ville. Proche-Orient, selon le procureur général palestinien, l'autopsie de l'adolescent tué cette semaine montre qu'il a été brûlé à mort. Le corps de Mohamed Abou Koudaïr a été retrouvé dans une forêt de Jérusalem mercredi, environ 1 heure après avoir été forcé d'entrer dans une voiture par les ravisseurs. Le procureur a déclaré que le jeune Palestinien a subi des brûlures sur 90% de son corps. La police israélienne n'a pas encore déterminé qui sont les ravisseurs et dit chercher à savoir si le meurtre était en représailles à l'enlèvement et l'assassinat de 3 adolescents israéliens trouvés enterrés plus tôt dans la semaine. D'autre part, des tirs de roquettes de la bande de Gaza contre le sud d'Israël n'ont pas cessé, laissant craindre une escalade du conflit avec le Hamas. En Afghanistan, près de 200 camions-citernes parqués en périphérie de Kaboul ont été incendiés, ont annoncé les autorités. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Ils ont intensifié leurs attaques récemment, alors que les forces de l'OTAN doivent achever leur retrait du pays d'ici la fin de l'année. Si le nouveau président afghan signe un accord de sécurité avec Washington, environ 10 000 militaires américains devraient alors rester dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour, Nathalie Barge en votre compagnie pour le magazine Au féminin de la Voix de l'Amérique. Selon l'ONU, d'innombrables enfants sont encore recrutés et utilisés comme combattants, tués, blessés et victimes de violences sexuelles dans 23 zones de conflit à travers le monde. Le point sur leur situation avec Anne Albertson.
Dans un nouveau rapport, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougui, indique que son bureau a recensé des cas d'enfants recrutés et utilisés comme soldats par 8 armées nationales et 51 groupes armés dans l'année écoulée. Elle met en exergue les violations graves des droits de l'homme dont ils sont victimes, notamment mutilations, violences sexuelles et attaques contre les écoles et les hôpitaux. Certaines des situations les plus graves sont signalées en Syrie, en Irak, au Nigeria et au Soudan du Sud. En Syrie, où la guerre civile entre dans sa 4e année, l'ONU estime que plus de 10 000 enfants ont été tués. Madame Zerougui souligne que son bureau a documenté des violations massives et graves contre les enfants dans ce pays.
Le conflit et la violence en Syrie atteint des niveaux sans précédent au cours de 2013 et l'on n'observe aucun signe d'amélioration depuis le début de l'année et aucune solution politique.
La responsable onusienne précise que les groupes armés, y compris plusieurs associés à l'opposition de l'armée syrienne libre, ainsi que des groupes de l'État islamique d'Irak et du Levant et de Jabhat al-Nusra, recrutent et utilisent des enfants pour la logistique, la manutention des munitions, les postes de contrôle et en tant que combattants. Les groupes armés continuent de tuer et de blesser des enfants, de violer des filles et de cibler des écoles. En Irak voisin, les islamistes d'ISIL ont réalisé des avancées considérables au plan militaire, créant des conditions extrêmement violentes et dangereuses pour les enfants, alerte Madame Zerougui. Selon son rapport, au moins 250 enfants ont été tués en Irak l'an dernier. Les groupes terroristes en Afrique sont eux aussi responsables d'attaques sur les enfants. Plus particulièrement au Nigeria, où Boko Haram a enlevé un grand nombre de jeunes filles dans le nord du pays et continue de cibler des écoles. La représentante spéciale souligne que les islamistes armés ont dans leur rang des enfants de 12 ans. Madame Zerougui s'est également rendue récemment au Soudan du Sud.
I saw myself.
J'ai eu des enfants avec des armes à feu au sein des forces du gouvernement, mais aussi des groupes armés avec David Yao Yao, avec l'armée de libération du Sud-Soudan et avec l'opposition sous Riek Machar.
Une bonne note cependant pour le Tchad. En effet, ce pays d'Afrique centrale a été retiré cette année de la liste de l'ONU sur l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Le Tchad contribue un nombre important de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son bilan en tant que recruteur d'enfants menaçait de compromettre sa participation aux missions de l'ONU.
Merci à Anne Albertson et Michel Joseph pour cette interprétation d'un reportage de Margaret Béchir, correspondante de La Voix de l'Amérique aux Nations Unies. Et c'est encore l'ONU qui a indiqué récemment que la violence contre les femmes et les filles centrafricaines réfugiées dans l'est du Cameroun est très élevée. Témoin de plusieurs récits d'agressions, des agents onusiens de terrain appellent ainsi Yaoundé à leur protection. Le correspondant de La Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kinzeka, s'est rendu sur place dans les camps de réfugiés près de la frontière avec la République centrafricaine. Voici son reportage, interprété par Michel Joseph.
Des milliers de personnes continuent d'affluer vers le Cameroun pour échapper à la violence en République centrafricaine. La plupart des 11 000 réfugiés à Gado, un village frontalier, sont des femmes. Duna Divina, âgée de 17 ans, témoigne.
Je venais avec ma mère, mes cinq sœurs, nos cinq amis. Quand on est parti en Prusse, on nous a arrêtés et on nous a emprisonnés. Les gens avaient les fusils, ils nous ont dit que si on tente de courir, ils vont nous tuer. On était là-bas pour 2 semaines.
Amabel Ndifortna, une infirmière onusienne, précise que les femmes et les filles sont victimes de violences également à l'extérieur des camps.
Since the place is a cattle zone, the meat people take care of cattle.
Comme l'élevage est pratiqué dans la zone, elle rencontre des gardiens de bétail qui abusent d'elle sexuellement. Beaucoup d'entre elles ont déjà vécu auparavant des situations très difficiles et certaines arrivent ici enceintes.
Le docteur Jacques Quepeu, de Médecins sans frontières, souligne que beaucoup de victimes souffrent d'infections sexuellement transmissibles, dont le sida.
Nous observons parfois des cas très critiques tels que des lacérations vaginales, des ecchymoses, ce qui montre qu'il s'agissait bien d'un rapport forcé commis par plusieurs personnes. Certaines femmes ont témoigné de viols collectifs.
La représentante de l'ONU pour les femmes au Cameroun, Rachel Mian Djagon.
Les actions proposées par ONIFEM sont des actions qui sont très pertinentes, notamment les unités de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, parce qu'on a vu beaucoup de femmes dans des situations de détresse extrême. Les mesures en rapport avec le renforcement des capacités économiques, avec la création des petites activités génératrices de revenus. Et nous aurons aussi des animateurs sociaux et des travailleurs sociaux qui vont être directement sur le site ici au niveau de Gado pour accompagner la mise en œuvre effective de ces activités.
Messanga Alvino, conseiller du chef traditionnel de Gado, déplore le manque de moyens des hôpitaux de la région.
Médecins sans frontières a installé il y a environ 11 tentes, donc 3 tentes pour l'hospitalisation, les gens qui sont déjà vraiment malades. Parce que c'est des gens qui ont fait 700, 600 kilomètres pour arriver à la frontière du Cameroun et trouver un peu de la paix. Le centre de santé, 15 lits. Le centre hospitalier, 100 lits. Ça permet au moins de la prise en charge. Et puis, Médecins sans frontières à 58 lits.
Mahamat Al-Hadi, un planificateur de site à Gado, dit que le HCR tente d'organiser de meilleures conditions de vie dans les camps de réfugiés pour réduire les attaques sur les femmes et les filles.
Entre parenthèses.
Dans certains pays africains, les fraudes aux examens deviennent un réel sujet de préoccupation pour les gouvernements et le corps enseignant. Le 26 juin dernier, en Tunisie, 20 personnes, dont 3 élèves de terminale, ont été condamnées à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour fraude à l'examen du bac. Suite au démantèlement de plusieurs réseaux de fraude au baccalauréat, des députés ont réclamé une commission d'enquête jusqu'à l'audition du ministre de l'Éducation, Fatih Jarey. Pour en savoir plus, Jacques Aristide a contacté à Tunis Lofti Tweti, directeur de la rédaction de Zitouna TV.
Oui, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre en Tunisie. Donc, ce sont des citoyens et des élèves qui se sont unis pour falsifier et transmettre des informations aux bacheliers. Ils ont utilisé des moyens technologiques avancés dans la mesure où les étudiants ont mis des écouteurs très, très petits et ils pouvaient donc transmettre par voie portable des informations. Et ils ont été découverts grâce à la vigilance d'un agent de police qui a entendu les gens parler dans un café dont ils étaient en train de transmettre les informations aux bacheliers.
Y a-t-il eu d'autres cas de tricherie rapportés par le passé ?
C'est le premier réseau qui a utilisé des méthodes sophistiquées. Avant, il y avait des fuites. Des fuites de sujets, des photocopies des sujets qui ont été donc transmis par-ci, par-là.
De tels réseaux de tricherie remettent-ils en question la valeur de ce diplôme ?
C'est un réseau limité, ce n'est pas de grande envergure.
Des députés ont demandé une commission d'enquête et même l'audition du ministre de l'Éducation sur les fraudes au bac. Le ministre Fatih Jarey a-t-il réagi à ce sujet ?
Il a précisé que l'affaire n'est pas généralisée et qu'elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur le sérieux des épreuves du baccalauréat. Donc pour lui, ce sont des tricheries isolées. Je suis d'accord avec lui sur ce point. parce que vraiment c'est le bac de cette année était un peu dur et le pourcentage de réussite est de 39%. C'est même au-delà des moyennes annuelles. Donc je ne pense pas qu'avec ce score de 39% qu'il y ait eu beaucoup de tricheries et beaucoup de fraudes.
La surveillance des épreuves du bac va-t-elle être revue ?
Ah, certainement. Les surveillances vont être plus approfondies et plus accrues. Et je pense qu'on parle même d'utilisation de moyens techniques et technologiques pour arrêter et contrecarrer toute fraude technologique, disons-le. Je pense que, et j'ai même entendu dire que les méthodes de surveillance vont changer, on l'espère bien, pour ceux qui ont préparé donc sérieusement leur baccalauréat, parce que ces fraudes sont négatives pour les gens qui ont travaillé et qui sont moyens, donc ils peuvent réussir, mais avec des fraudes pareilles, donc le moyen devient moins que passable.
Lofti Tweti est le directeur de rédaction de Zitouna TV en Tunisie. Le ministre malien de la Santé, Ousmane Koné, était à Washington récemment, notamment pour participer à un forum sur les stratégies à mettre en œuvre pour la réduction de la mortalité infantile et maternelle. On ne saurait améliorer la santé des populations sans faciliter l'accès universel aux soins, a-t-il fait valoir. Tous les citoyens doivent accéder de façon équitable aux soins de santé de qualité, a déclaré le ministre, ajoutant que personne ne doit être exclu à cause de difficultés financières. Le forum était organisé par l'Agence américaine pour le développement international et plusieurs gouvernements, en collaboration avec l'UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates. Dans un entretien avec Camille Grosdidier, Ousmane Koné parle des plus grands défis à relever en matière de mortalité maternelle et infantile.
Tout le monde s'accorde à dire que investir dans la santé maternelle, néonatale et infantile est un investissement utile. Et cette préoccupation a été partagée par tous les participants comme une préoccupation de santé publique, certainement la préoccupation majeure. Et nous avons retenu que l'USAID reconnaît que les États doivent avoir le leadership. Ça veut dire que l'aide doit s'insérer dans le dispositif national de la santé publique. Bien entendu, il faut s'accorder sur la pertinence des objectifs et des stratégies. Cette rencontre a été l'occasion de comparer les stratégies des différents pays et les en tirer les leçons des réussites qui ont eu lieu par-ci et par-là.
Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui vous a frappé et que vous comptez utiliser de retour au Mali ?
Nous avons été renforcés dans notre conviction que la nutrition est un volet essentiel de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous avions l'expérience de la vaccination. Je crois que le Mali a réussi de bonnes performances avec son programme élargi de vaccination. Ce qui n'a pas été, par contre, suffisamment mis en exergue, c'est la nutrition. Et nous avons été convaincus que la nutrition est un complément indispensable de la stratégie.
Et justement, récemment au Mali, vous avez annoncé des initiatives pour lutter contre la malnutrition qui reste un gros problème.
Absolument. La nutrition reste un gros problème. Nous l'avons diagnostiqué et nous avons fait adopter par le gouvernement une politique nationale de nutrition depuis janvier 2013. Et donc, un comité technique a été mis en place pour élaborer un plan stratégique pour la mise en œuvre de ces orientations. Et récemment, le plan stratégique a été adopté.
Alors, ce problème de malnutrition, est-ce qu'il est plus aigu dans les régions isolées, dans les villes, ou est-ce qu'il concerne toutes les populations?
Je crois qu'il concerne toutes les populations et contrairement à ce que l'on peut penser, que les régions du sud sont à l'abri de la malnutrition. Non, pas du tout. Au contraire, il a été établi que ce sont ces régions qui sont souvent piégées, qui tombent dans le piège de la malnutrition.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Les habitudes alimentaires font qu'on se préoccupe souvent de la quantité d'aliments plus que de la qualité de l'aliment. Et notre politique vise justement à éduquer les populations dans le sens d'une bonne combinaison des aliments.
Pour qu'il y ait un apport en vitamines suffisant.
Pour qu'il y ait un apport suffisant en nutriments et pour l'équilibre de la ration.
La santé maternelle reste un sujet très préoccupant. De ce côté-là, qu'est-ce que votre ministère envisage ?
La santé maternelle ne peut pas être traitée indépendamment de la santé infantile et néonatale. Nous mettons tout ça ensemble et nous avons un ensemble de mesures que le gouvernement a adoptées depuis longtemps. Et par rapport, par exemple, à la mortalité maternelle, il a été constaté que beaucoup de femmes meurent en accouchant pour des causes qui sont évitables. Il y avait parmi les causes l'insuffisance des consultations prénatales. Et donc il y a toute une panoplie de mesures visant à éduquer les femmes, à les inviter à observer ces consultations prénatales. Et il y a également l'assistance à l'accouchement. Et nous faisons en sorte que les femmes en couche puissent être assistées par une personne expérimentée. Et en cas de complication à l'accouchement, le recours à la césarienne est une solution que le gouvernement a facilitée en accordant la gratuité de cette opération.
Est-ce que vous songez à développer les programmes de sages-femmes qui peuvent être très utiles justement pour mieux suivre les femmes vers la fin de la grossesse et faciliter l'accouchement ?
Bien sûr, la formation des sages-femmes et l'utilisation des sages-femmes sont des mesures qui sont dans le paquet des mesures que nous envisageons. Nous avons quelques difficultés quant à la répartition spatiale. Il y a le nombre qui est un aspect. Et je crois que malgré que le nombre est insuffisant, il est quand même regrettable de constater que ce nombre insuffisant est très mal réparti. Il y a une concentration au niveau de la capitale. Et nous essayons de mettre en place des mesures incitatives pour essayer de fixer le personnel dans les zones considérées comme relativement difficiles.
Et en fait, c'est peut-être aussi les zones où elles sont le plus nécessaires.
Et les plus nécessaires, bien entendu, parce que le service de santé se ramène peut-être à un effectif très réduit. Et donc, le rôle de la sage-femme est très primordial dans cette zone.
Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir accompagnés. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ?
Je voulais peut-être informer sur ce que nous sommes en train de mettre en place comme une préoccupation dans le programme de santé du chef de l'État, c'est-à-dire l'accès universel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les citoyens doivent accéder de façon équitable aux soins de santé de qualité. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient à distance respectable d'un centre de santé, que les soins soient de bonne qualité et que personne ne soit laissé en marche à cause des difficultés financières. Et pour cela, il y a deux caisses qui ont été mises en place. La caisse d'assurance maladie obligatoire, où tous les salariés sont obligés de cotiser et qui permet de prendre en charge les salariés et leurs ayants droit. Et puis l'assistance médicale, qui est une caisse de subvention pratiquement de démunis. Et donc, à la longue, ça permettra à tous de se faire soigner sans que la difficulté financière soit une limite pour l'accès aux soins de qualité.
C'était le ministre malien de la Santé, Ousmane Koné.
Parole de femme.
Le 1er juillet 2014 est devenu une date clé des plus illustres dans l'histoire américaine, mais surtout dans celle de la lutte pour l'égalité homme-femme. C'est en effet la toute première fois qu'une femme a été promue numéro 2 de la marine américaine. Michelle Janine Howard est devenue vice-chef des opérations navales avec grade d'amiral 4 étoiles. Jusqu'ici, le poste a été occupé par 37 hommes. Voici le portrait du premier officier au féminin en 236 ans d'histoire militaire navale avec Michel Joseph.
Depuis l'obtention de son diplôme de l'Académie navale en 1982, Michelle Howard était la première femme africaine-américaine à obtenir 3 étoiles dans l'armée, la première à atteindre le grade d'amiral dans la marine américaine et la première femme africaine-américaine à diriger un vaisseau naval. Howard était au Pentagone pendant les attaques du 11 septembre 2001 et en 2009, elle avait participé à l'opération de sauvetage du capitaine Phillips, détenu par des pirates somaliens. D'ailleurs, le capitaine Phillips est maintenant le titre d'un film très célèbre.
« chères auditrices et auditeurs, le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique est sur Facebook. Cliquez sur like si vous aimez. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette page, sur des sujets qui vous concernent et vous intéressent particulièrement. Vous pouvez également proposer des invités, proposer des sujets et participer à une émission. Vous pouvez écouter le magazine au féminin sur le site de La Voix de l'Amérique. Cette émission hebdomadaire est diffusée tous les samedis à 19h30, temps universel. L'école primaire rwandaise investit dans les nouvelles technologies pour donner les meilleures chances à ses élèves. L'ordinateur est en effet un outil de tous les jours pour de nombreux petits Rwandais. Écoutez ce reportage de Jean-Marie Jabot à Kigali.
À l'école primaire, à 6 ans, 7 ans, ils ont un ordinateur. Ils s'habituent à l'utiliser, à accéder au contenu pour pouvoir améliorer la qualité et la diversité des informations de l'éducation qu'ils reçoivent.
Just now we are going to work. I want you to make a book which has at least 5 pages.
Maintenant, nous allons travailler. Je veux que vous me fassiez un livre qui a au moins 5 pages. Kamatari Aimé a 11 ans.
If you want to start to make a book, you go on surprise. On surprise is a many symbols. You go also on the book. You take what? What text you take if when you.
Si tu veux commencer à faire un livre, tu vas sur surprise. Là, il y a beaucoup de symboles. Tu cliques sur livre et tu prends l'icône livre à ta droite et tu cliques sur Word et tu vas sur page 1. Muka Abdialimana émérite. Elle est enseignante de mathématiques. Elle a fait aussi des formations en informatique pour être en harmonie avec ses élèves.
J'ai fait différents exercices et j'ai déjà étudié en computer science in KIAI, Kigali Institute of Education. Et j'ai appris différents trainings on one laptop par chat. Nous avons fait tout ce training. Sur les ordinateurs, j'ai appris programming. Et j'ai appris Word, Excel, PowerPoint, Access avec les autres. Et sur le computer, pour le laptop par chat, un ordinateur par enfant. J'ai appris différentes activités.
Les enseignants ont aussi leur module de formation approprié quant à l'utilisation de ce nouvel outil. La méthode traditionnelle d'enseignement était avec la craie. Il y a eu alors un programme de formation de ces enseignants pour qu'ils s'adaptent et donnent leurs cours en utilisant ce nouveau support. Et ils ont réellement changé leur méthode de travail. Jean-Paul Hitimana, un parent d'un des élèves, c'est une démonstration qui lui fait tellement plaisir.
Ça me rend tellement content de façon que j'apprécie cette formation. Donc les enfants, ils essaient de résoudre les problèmes, mais les problèmes qui sont en situation. Donc ça donne l'idée que les enfants ou l'école d'aujourd'hui, avec ces laptops que l'on a souvent l'habitude d'appeler les laptops XO. Donc, ils ont amené une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie. Donc, ça donne l'impression que le Rwanda aura des hommes et des femmes qui sont capables d'être responsables, de créer, de penser, d'amener des innovations. Donc, qui sont capables de s'insérer dans le tissu social et économique du Rwanda de demain.
Aussi, les parents n'ont pas d'inquiétude sur d'éventuels dérapages des enfants qui chercheraient à utiliser d'autres outils qui ne leur conviennent pas, par exemple l'Internet.
Et ce qui est important est que l'école n'est pas encore connectée à l'Internet. Donc toute la matière qu'il a accès, c'est la matière qui est hébergée au serveur et qui est dans l'ordinateur. Donc pour le moment, on n'accède pas à l'Internet. Et le directeur de l'école nous a dit qu'ils ont leurs propres moyens de filtrer ce que les enfants peuvent avoir ou peuvent avoir accès.
Aujourd'hui, plus de 300 écoles ont été équipées et plus de 150 000 ordinateurs ont été distribués dans les écoles. C'est un investissement à long terme qui va permettre à créer une nouvelle génération capable d'utiliser l'ordinateur. Jabot Jean-Marie, La Voix de l'Amérique, Kigali.
Et voilà, c'est ainsi que se referme le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À très bientôt, au revoir.
Arrête.
Good night and good luck.
This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes.